BFM Business et Tech & Co présente De quoi je me mêle, François Sorel.
Eh bien, nous y sommes. Un grand bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Bon week-end à vous toutes et à vous tous. Votre dose de tech hebdomadaire, c'est De quoi je me mêle. Merci d'être là. BFM Business, Radio Télé le week-end, mais aussi sur la chaîne YouTube de Tech & Co. Et puis, bien sûr, sur l'appli RMC BFM Play, De quoi je me mêle, que vous pouvez, déguster. C'est peut-être un bien grand mot, mais en tous les cas, ou écouter ou regarder, c'est au choix. Merci d'être là. Avec, pour ceux De quoi je me mêle, tout à l'heure, les trottinettes, tiens, c'est la période. Peut-être êtes-vous en train de vous poser la question, comment choisir sa trottinette électrique? Ça tombe bien, le Labo Fnac a fait un comparo hyper intéressant et vous verrez qu'il y a de plus en plus de tech dans les trottinettes. Donc ça tombe bien et Lionel Cossa nous rejoindra tout à l'heure. Je vous rappelle le hashtag DQJMM si vous voulez nous joindre, bien sûr. Mais pour débuter, c'est le club de la presse IT. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Commenter l'actu tech, je sais que vous aimez ça, ça tombe bien, nous aussi, avec Anthony Morel, bien sûr. Salut Anthony.
Salut François, salut à tous.
Journaliste à BFM Business, vous le retrouvez le matin, mais aussi entre midi et deux sur RMC, avec Estelle Denis.
Ouais.
Voilà, et puis, on ne présente plus Anthony, qui chaque semaine est avec nous dans De quoi je mêle. Et on accueille aussi pour la deuxième fois dans De quoi je mêle, Omar Belkab. Salut Omar.
Salut.
Omar. Bon, ça pas possible, ça.
On avait dit que c'était pas facile le nom.
C'est cool.
Voilà, tu vois, j'étais concentré sur nom de famille. Mais...
Omar Simpson, voilà, qui est avec nous. Salut Omar.
Salut.
Ravi de te retrouver.
Merci t'avais, pour
l'accueil. Tu n'avais pas savonné en plus quand tu l'avais présenté, quand tu me remplaçais.
Et non.
Et
non.
Ben voilà.
Tu ressens les conclusions que tu veux.
Le vrai boss, mesdames, messieurs, est à ma gauche. Rédacteur en chef adjoint à Frandroid.
Tout à fait.
Bah, ravi de t'accueillir.
Merci.
Voilà,
ouais,
pour cette seconde fois dans De quoi je me mêle.
Mais ma première fois avec du coup toi en animateur.
Et ben voilà. Et ben voilà, la boucle est bouclée. Alors l'actualité de cette semaine, pas mal de choses. Hein. On va parler d'un PC sans écran, un sujet aussi très optimiste concernant l'extinction de l'humanité à cause de l'IA, mesdames, messieurs. Ça va être cool. On va parler de Neuralink aussi dans quelques instants. Mais pour débuter. Ça y est, le compte à rebours a commencé. Le 5 juin aura lieu la WWDC à Cupertino. Nous y serons puisque nous aurons sur place Mélinda Davansoulas qui nous fera vivre cette grande keynote. Et c'est pas n'importe quelle keynote, visiblement, parce que plus la date se rapproche et on se rend compte que voilà, ce masque de réalité mixte d'Apple, Anthony, pourrait véritablement être annoncé.
On espère, parce que s'il n'est pas annoncé, là, ça va être la vraie
déception. Là, c'est la guerre.
Ah, mais oui.
C'est la guerre,
parce
colonel.
Que vraiment, je pense que ça faisait longtemps qu'une keynote d'Apple m'avait pas autant enthousiasmé. Je
ah,
pense
ouais.
vraiment pas être
mais
le seul dans
d'accord.
ce cas-là, parce que d'habitude, on est un peu dans le ronron, même s'il y a des nouveaux produits, des nouveaux
oui,
iPhones,
bon,
etc.
Ça, c'est d'iOS 15 à iOS 16.
Ouais, c'est ça.
C'est sympa,
pas,
mais bon.
Et
voilà.
WatchOS 10, bon, on est content, c'est très bien.
Ouais.
Mais là, voilà, le fait d'avoir un nouveau produit, une nouvelle gamme de produits, forcément, c'est un petit peu plus excitant. Et effectivement, comme tu le dis, tous les indicateurs semblent montrer qu'on se dirige vers une annonce. Il y a de plus en plus de rumeurs, de plus en plus de fuites. On a eu même des premiers concepts et designs qui ont commencé à sortir. Alors, je ne sais pas si on peut les décrire. Hein. Encore une fois, tout ça est très hypothétique pour l'instant, mais ça ressemblerait à une sorte de masque de ski avec à l'intérieur des écrans. Mais alors, très très haute résolution. On a eu quelques chiffres. Ce serait quand même donc des écrans 4K avec 4000 pixels par pouce. Sur un iPhone, on est à 460. Donc, c'est quand même énorme. Donc, ça nous promet des choses extraordinaires. Encore faut-il qu'il soit annoncé, mais on espère vraiment que ce sera le point d'orgue de cette keynote. Bon, il va falloir probablement se taper une heure et demie d'abord ouais. avec les nouveautés logicielles, mais on espère à un moment qu'on nous présentera quand même ce casque.
Tu disais que c'était celle que tu attendais le plus depuis plusieurs années et tout, et en même temps, c'est peut-être celle qu'on craint le plus, peut-être, parce que, en fait, c'est, même s'ils l'annoncent, peut-être qu'ils vont l'annoncer pendant juste 3 minutes avec un hop, en fait, on travaille sur ça.
Le one
merci, ciao, merci allez, gros bisous, on découle l'année prochaine.
Exactement, on va commencer à travailler dessus.
Ah, mais là, je crois qu'on va en délégation à Cupertino. Et on fait le pied de grue devant le bureau de Tim Cook avec
mais,
Anthony.
Mais t'as raison, je suis d'accord avec toi, c'est vraiment le risque, c'est qu'ils nous fassent un one more thing, enfin un truc où peut-être ils vont faire allusion, peut-être qu'ils peuvent, tu sais, présenter le système d'exploitation qui va avec, parce que c'est quand même une conférence pour les développeurs, donc leur Reality OS, hein, comme il va s'appeler normalement, et puis qu'ils nous disent, puis voilà, et ce casque, voilà à quoi il ressemblera, et ils nous montrent juste une esquisse du truc, et puis au revoir messieurs, dames, on verra.
Ouais, bon, ça peut arriver, mais moi, je suis d'un naturel optimiste. Je pense que une grosse partie de cette WWDC sera consacrée à ça, parce que comme tu le disais, il va falloir entraîner tout l'écosystème des développeurs, donner envie à tous ces gens-là de développer sur ce masque, parce que ce masque-là, c'est pas qu'Apple qui le réussira, c'est évidemment tout l'écosystème derrière. Et je pense que si Apple en parle, ils seront obligés de mettre le paquet pour expliquer à quoi ça va ressembler, et surtout vers quelle direction ils vont. Mais moi, ce que je trouve incroyable, c'est que on est peut-être à l'aube d'une rupture chez Apple. Ça fait des années qu'on n'a pas eu de vraies nouveautés, enfin en tout cas de vraies nouveautés de rupture.
Depuis l'Apple Watch, enfin la nouvelle catégorie de produits, la dernière fois c'était l'Apple Watch 2014, à moi on monte les AirPods
qui peuvent les AirPods, c'est quelque chose. Alors évidemment c'est un gros succès pour Apple, mais c'était pas une révolution, c'est un nouveau produit, d'accord, mais qui était pas innovant au point d'un masque de réalité mixte, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Omar.
Là où je te rejoins notamment aussi, c'est le côté peut-être pas annonce d'un produit avec tout de suite une vraie visibilité sur la disponibilité ou le prix ou quoi que ce soit. Enfin, c'est peut-être l'hypothèse en laquelle je crois le plus, et surtout peut-être celle qui me fait le plus envie. C'est au moins avoir assez de détails pour que même le grand public puisse avoir quand même de bonnes idées. Parce que il y a la crainte, je pense qu'elle est légitime, de se dire mince, est-ce que ça va être juste un one more thing et 3 minutes et allez, ciao. Et en même temps, je me demande, est-ce que c'est vraiment le style aujourd'hui d'Apple? C'était peut-être le one more thing. Ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas fait, en fait, finalement.
Absolument.
Juste, je vous fais une petite annonce.
C'est vrai. Puis on a tellement d'infos dessus, je me dis, ce serait vraiment bizarre, tu vois, qu'il y a un moment, ils disent pas, bon, bah voilà, ça c'est vrai, ça c'est pas vrai. Parce qu'il y a eu, pour qu'on sorte vraiment des hypothèses, etc., mais sur ce qu'on sait à peu près quand même, c'est que ce casque, donc il y aurait une partie réalité virtuelle, réalité augmentée. Ouais. Apparemment, il y aurait 2 boutons sur les côtés, un qui permettrait justement de passer en virtuel
voilà, ou en réalité
exactement
augmentée.
Exactement. Donc VR, AR, VR. En un seul bouton. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme info sur le casque? Ah si, il y a la question de la batterie aussi. Alors ça semble se confirmer.
Ouais.
Le fait qu'il n'y aurait pas de batterie directement intégrée dans le casque pour des raisons d'encombrement, tout simplement. On veut faire en sorte qu'il soit le plus léger possible. Mais du coup,
la batterie déportée et accrochée.
Voilà, ce qui est, bon voilà, pour Apple, ça veut dire qu'il y aura un fil, ce ne serait pas forcément très esthétique. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Mais voilà, ça semble se confirmer aussi.
Et si je peux me permettre aussi, l'une des grandes questions, tu te disais que c'était peut-être un moment charnière pour Apple, ça va sans doute l'être, et le grand sujet en tout cas qui va un peu définir ce moment charnière, c'est aussi quels usages ils vont mettre en avant sur ce casque. Est-ce que ce sera plutôt business, parce qu'on imagine un prix très élevé, ou est-ce que c'est rapidement, ils vont essayer de dire non, mais le but, ça va être le démocratiser très très vite. Enfin, c'est là où j'ai beaucoup de zones
d'interrogation.
Effectivement, ouais. Je me demande qu'est-ce qu'ils vont mettre en avant comme usage. Est-ce que plutôt un usage pro? Apple, c'est pas non plus l'entreprise du gaming, par exemple, c'est pas où ils vont dire on va jouer à
34. Que j'insiste sur le fait que c'est peut-être vraiment une innovation de rupture pour Apple, parce qu'ils se lancent dans un nouveau secteur, un nouveau segment. C'est aussi très symbolique pour Tim Cook, qui porte à bout de bras ce projet. Enfin, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et je pense que bon, on va pas en parler trop parce qu'il y a beaucoup d'actu et on aura l'occasion d'en reparler la semaine prochaine, parce que effectivement, il y aura les annonces. Mais simplement pour vous dire que c'est peut-être un grand moment qu'on va vivre lundi, peut-être. Et on a mis les petits plats dans les grands, hein, puisque évidemment dans l'univers Tech & Co chez Altice Media, on va mettre le paquet avec la retransmission en live de la keynote avec Anthony, qui sera à mes côtés. Il y aura Melinda Davansoulas qui sera sur place, et donc sur la chaîne Tech & Co sur les box, mais aussi sur YouTube. Vous pourrez nous retrouver en direct à partir de 18h50. Et je suis ravi de t'accueillir, Anthony, parce qu'on va s'éclater pour ce grand moment à suivre en direct. Et puis à partir de 20h, je vous retrouverai pour Tech & Co sur BFM Business, où là, 2 heures spéciales exclusivement dédiées aux annonces Apple.
Qui sont intégrés à l'annoncer, leur casque. Autant te dire.
Ouais, parce que là,
parce
franchement.
Que 2 heures sur WatchOS 10, voilà.
Ça va être chaud. Ou alors de nouveaux emojis.
Ouais, peut-être des annonces autour de l'intelligence artificielle, par contre.
Peut-être.
Ça pourrait être intéressant aussi. Hein, parce que c'est les seuls qui ne se sont pas vraiment prononcés sur ce sujet, qui est quand même le sujet du moment.
Donc, rendez-vous lundi chez nous à partir de 18h50, et j'imagine qu'à Frandroid aussi, vous allez mettre le
prix. Oui, il y aura tout un Twitch.
Tout un dispositif.
Retrouvez-nous.
Bien sûr, c'est cool, mais il y a assez de monde pour qu'on puisse être tous sur des médias différents, il n'y a aucun problème. Alors bon, voilà, on se donne rendez-vous lundi pour cette WWDC. Dans l'actu aussi, il y a Space Top. le PC sans écran détecté par Anthony Morel.
Ouais, c'est un truc de fou. Alors ben justement, puisqu'on parlait de casque de réalité virtuelle, réalité mixte, on reste un petit peu dans le même univers. Alors c'est un appareil assez étonnant hein, qui a été dévoilé par une entreprise israélienne qui s'appelle Sightful, qu'on connaît pas forcément, voilà, et qui présente un ordinateur portable, mais sans écran. Alors en fait, ordinateur portable sans écran, c'est donc tu as un clavier et tu as une paire de lunettes qui est commercialisée avec ce clavier que tu vas brancher à l'écran. Tu mets les lunettes sur le nez et tu te retrouves en fait avec un ou des écrans virtuels que tu vas pouvoir projeter devant toi dans ton champ de vision et qui vont remplacer l'écran physique que tu aurais normalement. Donc tu peux en projeter 1, 2, 3, 10, ce que tu veux. Alors l'avantage c'est que bah, déjà c'est en termes de confort, tu vas pouvoir projeter un écran de 2,50 m en face de toi, donc génial pour je sais pas regarder une série ou peu importe, enfin, c'est beaucoup mieux qu'un 13 pouces rabougri quoi. Tu vas pouvoir en projeter plusieurs, donc par exemple être en multitâche, par exemple une fenêtre pour les mails, une autre pour les réseaux sociaux, une autre pour un PowerPoint ou pour une réunion Teams ou Zoom.
Une petite fenêtre pour de quoi je me mêle.
Évidemment, une fenêtre pour de quoi je me mêle. Toujours.
La plus grande,
si possible, la plus grande. Non, mais c'est assez étonnant. Et le dernier avantage, c'est en termes de confidentialité, puisque tu es le seul à voir ce qui se trouve à l'écran, puisque c'est dans tes lunettes. Et donc, par exemple, quand tu es dans le train, tu sais, tu as toujours les mecs qui regardent un peu à côté de toi. Enfin, moi je regarde tout le temps. Si quelqu'un est à côté de moi et regarde l'ordinateur, non, mais je sais, je suis très curieux.
Non, mais c'est vrai que c'est tentant, quoi.
Mais attends, et t'as des secrets industriels d'entreprise, si tu veux. Parfois, des gens, ils bossent sur des trucs hyper sensibles, ils sont
sur la gombarde.
Mais non, mais ouais, c'est ça, mais attends, sans utiliser de filtre de confidentialité. Donc là, pour le coup, avec tes lunettes, normalement, t'es tranquille. Bon, c'est un objet assez étonnant. Est-ce que ça préfigure le PC portable du futur ou est-ce que c'est juste un gadget qu'on aura oublié dans 6 mois? J'en sais rien. Moi, je suis assez séduit.
Ouais, tu sais qu'il y a, excuse-moi, Omar, mais c'est un peu la direction que prend aussi Meta avec leur Quest Pro, enfin leur Quest 2, etc. Parce que tu peux te retrouver aussi avec des écrans qui s'affichent. Tu peux lier ton PC grâce à une appli. Alors c'est un peu une usine à gaz, mais tu peux te retrouver aussi avec cet univers et tes écrans déportés en VR.
Ouais, là, c'est le côté très portable, je crois, qui est aussi mis en avant. L'appareil, il est léger, j'ai plus le poids en tête, mais il était assez léger. Et à l'intérieur, c'est un dispositif qui est très proche d'un, enfin, des caractéristiques techniques très proches d'un smartphone. J'avais lu, je crois, Snapdragon 865, c'est la puce haut de gamme de 2020, par exemple, des smartphones de 2020. Du coup, on imagine que ce serait aussi très tourné vers le cloud computing, pour faire tourner des choses, je sais pas si on pense encore à Shadow, forcément, mais il y a
ce genre de choses.
Ce genre de plateforme. De solutions pour aller travailler. Tu
mais
parlais du
on
train.
On peut faire tourner Windows ça. là-dessus, c'est quoi? On ne sait pas quel OS.
Ils n'ont pas donné tellement de précisions là-dessus, mais je pense, oui. Il n'y a pas de contre-indication. Mais,
et ça, ça vient d'où qui fabrique ça?
Sightful, c'est une boîte israélienne que je ne connaissais pas, moi. Voilà, je trouve alors, ils commercialisent ça. Tu peux l'acheter, hein, déjà, c'est 2000 euros, je crois.
Mais il n'y a que 1000 exemplaires, je crois.
Ouais, c'est ça. C'est vraiment.
C'est un test.
C'est ça, c'est un test, exact. Puis il faudra voir aussi en termes de. Moi, je me posais la question en termes de fatigue oculaire aussi, tu vois. Parce que c'est pas la même chose d'avoir un écran physique devant toi et d'avoir des écrans virtuels. Non, enfin, tous ceux qui ont utilisé des casques de réalité virtuelle savent très bien qu'au bout d'un certain temps, t'as mal à la tête.
La résolution, tu vois. Voilà, c'est ça.
Donc il faut voir. Mais je trouve que le principe est intéressant. On avait parlé il y a quelques semaines de Humane, qui est cette start-up qui veut créer des smartphones sans écran.
Qui te projette.
Et en fait, c'est un peu ça. L'idée, c'est finalement les écrans de demain qui vont être omniprésents, mais en même temps qui vont être de plus en plus cachés et qui vont prendre des formes différentes de ce qu'on connaît jusqu'ici. Je trouve que c'est intéressant ces expérimentations. Je sais pas où ça ira, mais c'est intéressant.
C'est pas forcément d'ailleurs un remplacement, c'est peut-être juste deux machines, enfin le PC classique et ça en fonction des usages dont tu as besoin et tout. Parce que des fois on est ça va remplacer et tout, mais finalement ils ont la dent dure, nos PC portables.
Ouais, c'est vrai. T'as raison. Et qui... c'est compliqué de remplacer un PC.
Ouais, hein, ça, ils ont enfin, pas
PC
changé
ou un
depuis.
Mac, hein.
Le
figure out, écran clavier. C'est dur de faire mieux.
Et souris, il y a la souris qui a pas tant que ça évolué depuis des décennies. En
effet. Ouais. Donc on va voir, mais c'est toujours intéressant de retrouver ces nouvelles interfaces. On va voir un petit peu comment tout ça évolue, mais c'est cool. Ouais. C'est cool. Bon, alors ça c'était les sujets cool. Maintenant on va se plonger dans les sujets vraiment, on on va dire, je sais pas, un peu plus dur,
anxiogène.
Voilà, préparez le Tranxène, les amis. Donc, ce qui est intéressant, c'est que tous ces experts de l'intelligence artificielle qui créent tous ces trucs-là, c'est eux qui nous imposent tous ces machins-là. Ils disent attention, les gars, ça va éteindre l'humanité.
Ça va exploser. Oui, voilà, c'est ça qui est génial, quoi. C'est que les mecs qui passent des années.
Mais tout va bien à part ça.
Sinon, mais retournez-vous coucher.
Vous voulez boire un coup encore? Allez-y.
Il y a Sam Altman dedans, ouais. Cofondateur d'OpenAI, donc qui a fait juste ChatGPT, le truc qui était à la mode, enfin qui est toujours à la mode à fond et tout. Et il débarque et il signe. En fait, extinction de l'humanité, attention.
Mais lui, c'est hyper bizarre parce qu'il envoie vraiment des signaux complètement contradictoires. C'est-à-dire, il y a une semaine, il y avait l'Union européenne qui disait qu'elle voulait réglementer l'IA. Et il disait attention, hein, si vous réglementez, on sort du marché européen, vous aurez plus de ChatGPT.
Ouais, nananère.
Et maintenant, il signe une lettre ouverte pour dire surtout régulez-nous, on est trop dangereux. Donc c'est quand même un peu bizarre. Alors pour revenir sur l'actualité, parce que c'est cette tribune, donc hein, c'est pour ça qu'on en parle, c'est 350 personnalités du monde de l'intelligence artificielle, dont Sam Altman et plein d'autres grands noms, parce que c'est vraiment, pour le coup, c'est des pontes de l'IA. T'as aussi Demis Hassabis, le patron de DeepMind, donc la filiale IA de chez Google, des gens comme Geoffrey Hinton qui sont des le parrain de l'intelligence artificielle, qui est l'un des
le parrain
des pères, ouais, c'est son surnom, l'un des pères fondateurs en fait du machine learning, etc. Donc c'est des gens qui pèsent un peu et qui disent en fait dans cette tribune, que je peux lire d'ailleurs parce que c'est une phrase la tribune, donc c'est pas compliqué.
Ah oui, c'est une tribunette,
c'est une tribunette. Atténuer le risque d'extinction par l'intelligence artificielle devrait être une priorité mondiale à côté d'autres risques sociétaux comme les pandémies et la guerre nucléaire. Donc ce que nous dit cette tribune, c'est que 1, l'IA à un moment pose un risque d'extinction de l'humanité, et que 2, il faut la considérer comme une menace, comme la bombe atomique ou comme une pandémie. Ils sont pas beaucoup plus précis là-dessus, mais ce qu'on comprend de leur discours, c'est qu'ils craignent que des systèmes avancés d'intelligence artificielle, donc beaucoup plus performants que ChatGPT aujourd'hui,
deviennent
supra-humaines ou surhumaines, nous dépassent, et ensuite on entre dans l'inconnu, quoi. Si un jour, je sais pas, l'IA décide que les humains, bah finalement c'est très nocif pour la planète. Ouais. Bon, bah voilà, l'IA pourrait.
Finalement, la biologie, ça sert à rien.
C'est ça. Donc, ça ouvre des perspectives, c'est vrai, qui sont pas très, très réjouissantes quand on les lit comme ça.
On est d'accord que les films, là. On est dans le pire film de science-fiction.
C'est du pain béni pour des scénaristes, là aussi. Hein.
Mais ouais.
Alors le truc, c'est que moi, je vous ai lu cette tribune. Je veux la nuancer surtout assez largement, parce que il faut bien dire que ces propos-là, tout ce qu'on vient de se raconter, ça ne fait absolument pas l'unanimité dans la communauté des chercheurs en intelligence artificielle, et que vous avez probablement encore beaucoup plus de chercheurs en IA qui disent que tout ça, ce sont des foutaises, que ça relève du fantasme, que des scénarios à la Terminator, ça n'arrivera jamais. En tout cas, vraiment pas. On en est très, 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 très loin. Et un exemple de ça, si ça vous donne des poussées d'anxiété, allez lire le compte Twitter de Yann Lequin, hein, le patron de l'IA chez Meta, donc qui est un Français, qui a expliqué par A plus B que tout ça, c'était du n'importe quoi, que l'intelligence artificielle, au niveau global, aujourd'hui, elle n'a pas le niveau du cerveau d'un chien. Donc, avant qu'elle prenne le contrôle de l'humanité, si vous voulez, on n'est peut-être pas à se poser ces questions-là, en réalité. Donc, vraiment, faisons attention avec ces tribunes qui, pour moi, en plus, je termine là-dessus juste, peuvent aussi cacher des agendas. C'est-à-dire que on se souvient d'Elon Musk, tu te souviens quand ils avaient dit,
lui aussi signé une tribune.
Ouais, il faut tout arrêter pendant 6 mois. Ouais. Arrêtons tout parce que c'est trop dangereux. Et on s'était rendu compte, une semaine ou 2 semaines plus tard, qu'il travaillait lui-même sur un projet d'intelligence artificielle. Ouais. Donc il y a un cynisme incroyable, c'est-à-dire que, en fait, il faisait ça pour arrêter la concurrence, tout simplement. Et on peut se dire que tous ces grands groupes qui ont signé là, ils demandent régulez-nous, parce que eux, ils ont créé des outils qui sont extrêmement performants, et ils n'ont pas forcément envie de voir des concurrents arriver sur le marché, tout simplement.
Et tu signalais Sam Altman aussi, qui, c'est la semaine dernière, où il y a 2 semaines, qui disait attention, régulez pas trop en Europe, sinon on s'en va. Thierry Breton, qui avait dit que c'était du chantage et tout. Et ce même Sam Altman, dans d'autres prises de parole ou aussi peut-être d'autres tribunes, il disait aussi à quel point il fallait une régulation où le leadership était américain. Donc j'ai l'impression, en fait, il y avait une régulation à l'américaine. Il agite aussi l'épouvantail chinois en mode si on fait pas ça, c'est les Chinois qui vont prendre notre vent. Donc vraiment, il faut les États-Unis forts et tout. Enfin, il mobilise un peu ce genre de discours-là et tout. Et donc j'ai l'impression qu'il veut pas une régulation à l'européenne qui l'enquiquinerait beaucoup. Il veut peut-être une régulation peut-être qui l'arrange peut-être plus sur certains détails à l'américaine. Et j'ai l'impression que c'est un peu aussi ça. Ça s'inscrit dans tout ça, quoi. Il est plus OK, plus enclin aux lois américaines qu'aux lois européennes, qui seraient peut-être plus restrictives.
Moi, juste un truc, c'est la deuxième en fait tribune. Hein. Il y a eu, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques semaines de cela, il y avait eu un autre moratoire.
Ouais, le moratoire. Bah, Elon Musk justement, qui voilà. disait, notamment, qui était un peu le fer de lance.
Il n'y avait pas qu'Elon Musk.
Il y avait une centaine d'ingénieurs.
Je crois qu'ils étaient 1000. Enfin, bon, voilà.
Disons que Musk était le fer de lance. Bien sûr, il y en avait plein.
Après. Geoffrey Hinton a plusieurs fois dit qu'il fallait se méfier quand même de toute cette IA. Enfin, il y a quand même des signaux. Il faut pas prendre ça à la légère, je pense.
Non.
Il faut vraiment relativiser, ouais. comme tu dis, parce que bon, voilà, la capacité d'adaptation de l'être humain est quand même incroyable. Et on a vécu d'autres menaces depuis que l'on existe. Donc, on peut peut-être s'en sortir. Mais malgré tout, faut pas prendre ça à la légère. Quand on voit la progression exponentielle de toute cette intelligence artificielle, il faudrait pas qu'un jour, je dis n'importe quoi, mais que il y ait une espèce de qu'on ne sache plus à qui on s'adresse vraiment, et que ça nous entraîne dans des dérives en quelque sorte.
Oui, mais
c'est ça le truc.
En fait, alors je suis complètement d'accord avec toi. Simplement, je trouve que là, il pousse le bouchon un peu loin dans le sens où l'IA et les dérives de l'intelligence artificielle, et on en parle régulièrement dans De quoi je me mêle, il y a des choses qui sont très réelles, très concrètes et très actuelles. Et de ça, on pourrait s'intéresser à une régulation sur la propagation des deepfakes.
Il y en a besoin.
Il y en a besoin. L'utilisation même de l'intelligence artificielle à des fins de surveillance générale de la population, ce qui est déjà le cas dans certains pays. Enfin, il y a plein de sujets qui sont réels et qui sont actuels et dont on peut s'emparer sans forcément partir sur des scénarios hypothétiques où l'IA éteindrait l'humanité, avec des comparaisons qui sont quand même très très fortes. Hein. La bombe nucléaire et pandémies, c'est quand même, ça va très 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 loin. Donc je comprends cette logique de principe de précaution, etc. Mais peut-être emparons-nous des sujets déjà qui nous concernent aujourd'hui. Et puis, ce que vous disent quand même tous les experts, c'est que l'intelligence artificielle générale, comme on dit, celle qui se comportera vraiment comme un cerveau humain, on en est encore très loin. Alors tu me diras, souvent ça va beaucoup plus vite qu'on ne le croit.
Ouais, mais ça veut dire quoi, on est encore très loin? 5 ans, 10 ans, 15 ans, on ne sait pas. En fait, donc c'est très loin par rapport à quoi? C'est ça que je veux dire, c'est que quand on voit... Après, on passera à autre chose, mais parce que c'est un sujet, on peut en parler pendant des heures.
C'est philosophique, en fait.
Mais quand tu vois la puissance exponentielle de ces trucs-là, on a tellement été bluffé ces derniers mois. On peut s'attendre à des choses encore plus bluffantes dans les mois qui viennent, ou même les années qui viennent. Et finalement, l'échelle de temps à quelques années, c'est court.
Mais
finalement,
justement, pour s'y préparer au mieux, je rejoins Anthony là-dessus, c'est peut-être anticipant les problèmes déjà actuelle, transformation de société, des métiers peut-être menacés, de tout ça, effectivement de la propagation d'informations, on ne sait plus si c'est une image créée, si c'est une vraie photo ou des choses comme ça. Là, on a déjà beaucoup de travail pour les législateurs qui vont pas être d'accord en plus entre États-Unis et Europe, Chine, les différents continents. Donc, je pense qu'en effet, en s'emparant tout de suite des sujets maintenant, on se préparera sans savoir effectivement quel est l'horizon, 10 ans ou 6 mois, on ne sait pas, mais c'est la meilleure manière de s'y préparer, je pense.
Après, juste pour finir là-dessus, je trouve que cette bataille entre oui, c'est très très dangereux et non,
c'est pas dangereux.
Je trouve que ça nous fait aussi toucher du doigt notre limite à nous en tant que journaliste tech, parce qu'en fait, on n'a pas vraiment les clés pour répondre à cette question. C'est-à-dire que là, tu as face à face deux camps avec des chercheurs qui sont absolument brillants, qui sont des tronches dans leur domaine et qui, eux, ont les mains dans le cambouis technologique et qui, donc, ont des convictions, mais qui, eux, s'appuient sur des trucs qui sont très tangibles, mais qui disent le contraire de l'un de l'autre. Et nous, clairement, on n'est pas au niveau de ce point de vue-là. On connaît pas ces armes, ces outils technologiques-là. Et donc, on ne peut pas, en fait, donner un avis complètement éclairé.
Le problème qu'on a, et là encore, bon, après, on va passer à autre chose, mais c'est que je trouve que, étant donné qu'on commande ça quasi au quotidien, on n'a pas le recul nécessaire. C'est un peu le dernier qui a parlé qui a raison, finalement. Et c'est dur, parce que tous les jours, on a des avis, souvent contradictoires, et nous, on est là au milieu, en train de essayer de vous expliquer ce qui se passe, mais en fait, l'échelle de temps est tellement courte qu'on n'a pas le recul nécessaire. Ouais. Et bon, enfin, mais c'est vrai que c'est un vrai sujet. Et moi, en tant que présentateur de Tech & Co tous les soirs, il y a des soirs où je me dis, l'IA va tous nous tuer, le lendemain, je vais dire, tout va bien, les gars, on peut retourner sur le transat. Et puis le lendemain, ça va être l'extinction. C'est très compliqué, en fait.
Complètement d'accord. Ouais.
Alors, toujours dans l'IA, c'est Nvidia qui tire un peu son épingle du jeu de cette histoire-là, parce que Nvidia, boîte fabuleuse qui a 30 ans, qui au départ faisait des cartes graphiques pour les ordi et pour les gamers, voilà, qui continue d'ailleurs, et puis qui, en faisant de la puissance de calcul, aujourd'hui est devenue l'une des boîtes les plus bankable du moment, hein, Anthony. 1000 milliards de valo.
C'est
incroyable, Omar. Vas-y.
Ah non, pardon, j'étais juste j'acquiesçais.
Ouais, non, mais c'est
effectivement, c'était incroyable. Et en plus, grâce à l'intelligence artificielle, enfin, c'est aussi leurs investissements là-dedans et toute leur communication.
Ils surfent sur toutes les tendances.
C'est ça. Avant, c'était les cryptos. Ils avaient lancé des cartes pour les cryptos.
L'automobile.
Bien sûr. Mais l'intelligence artificielle, oui, ce sont eux. C'est les concepteurs, en fait, des cerveaux de l'intelligence artificielle, on peut le dire comme ça.
Et ils sont partout.
Et ils sont partout, effectivement. Et cette boîte, pour moi, c'est le GAFAM caché, un peu. C'est-à-dire que vraiment, c'est celui dont. Alors, oui, nous, on est tous technophiles, les gens qui nous écoutent et qui nous regardent forcément connaissent Nvidia, mais je pense que tu demandes dans la rue
non.
100 personnes qui connaît Nvidia.
Alors qu'Intel est plus connu.
Oui, Intel est beaucoup plus connu, bien sûr. Mais en termes de valo, tu as raison de dire 1000 milliards, c'est un club très très fermé. Aujourd'hui, Nvidia vaut plus que Meta et Netflix réunis, tu vois. Ouais, enfin, c'est quand même énorme, c'est énorme. Absolument énorme.
Ouais.
Et ce qui est très rigolo, c'est que cette semaine, donc c'était le Computex de Taïwan, hein, grand salon informatique, et l'une des la keynote d'ailleurs la plus attendue, c'était celle du patron d'Nvidia qui n'avait pas parlé depuis 4 ans.
Oui, qui est très discret, on va dire.
C'est ça. Et qui a fait une keynote, enfin c'était un peu à la Apple, quoi. Donc avec des nouveautés qui ont été annoncées, qui étaient assez dingues dans le domaine de l'IA, de la puissance de calcul, avec des démos assez spectaculaires. Alors notamment une démo de ce à quoi pourrait ressembler le jeu vidéo du futur. Dopé à l'intelligence artificielle, ça j'ai trouvé ça génial, où il t'explique en fait que l'IA va ouvrir un monde de possibilités absolument dingue. En gros, il fait une petite démo où t'as un jeu un peu, science-fiction, un peu à la cyberpunk, enfin bref, c'est pas ça qui compte. Et donc t'as le joueur, le personnage principal, qui entre dans un bar et qui commence à discuter avec un PNJ, donc le restaurateur en l'occurrence, ou le barman. Et donc t'as la discussion, normalement, dans un jeu vidéo, c'est le personnage parle et puis t'as une boîte de dialogue qui s'ouvre et tu choisis une option de dialogue. Bon, ça c'est classique. Et en fait, il t'explique qu'avec l'IA, tu pourras utiliser le micro de la manette de ta console et tu pourras en fait parler avec le personnage du jeu, avec le PNJ, et le PNJ comprendra ce que tu lui dis.
Génial.
Et il te répondra en langage naturel. Ouais, et donc ça ouvre en fait une possibilité d'infini par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Et là c'est un truc
de
fou. Il n'y
a plus de script,
quoi.
En fait.
Exactement, il n'y a plus de script.
Je suis un amateur de jeux de rôle par exemple, mais à l'ancienne, où il y a un maître du jeu par exemple, et en fait il faut s'adapter aux joueurs et tout. Et c'est quelque chose que un open world et tout, on retrouve peut-être un petit peu ça des fois dans le jeu vidéo, mais à ce point-là, enfin la démo là, ce qu'elle préfigure, c'est vrai que ce serait assez incroyable. Et en plus, il faut se rendre compte de toutes les technos qu'il y a dedans, parce qu'il y a le langage, large langage de modèle, LLM,
large language model.
Je vais mélanger les en français. Il y a une synthèse vocale aussi. Il faut aussi animer les expressions faciales, du coup, pour qu'elles s'adaptent au ton aussi, au discours qu'on a.
Oui.
Et tout ça avec une latence faible, parce que ça va être le gros défi. C'est effectivement tout ça, c'est possible, mais s'il faut 10 secondes au PNJ, donc au personnage non joueur pour
répondre.
Réagir. C'est il y a tellement de questions et de poses. C'est juste
et tout ça repose sur la puissance de calcul.
Ouais.
Et Nvidia,
ça tombe bien.
C'est les rois du monde.
Ouais, c'est les rois du monde. Ouais,
et ils sont en train de mettre une petite fessée quand même à Intel, je trouve.
En tout cas, on parle énormément d'Nvidia. Ouais. Cette semaine, on a parlé que d'eux. Ils ont fait aussi un accord dans un tout autre domaine avec WPP, donc c'est dans le monde de la publicité, pour développer des publicités grâce à l'intelligence artificielle.
Ouais.
Et là aussi,
ouais,
c'est une révolution, parce qu'en gros, tu peux demander à une IA de te faire une pub en 30 secondes, là où il faudrait 2 semaines ou 3 semaines à une équipe humaine. Enfin, c'est hallucinant. Juste avec quelques prompts, t'arrives à faire des trucs complètement fous, quoi. Donc là, on voit que la révolution est en train de se jouer sous nos yeux. Et effectivement, il y a des acteurs, enfin, des nouveaux acteurs, pas si nouveaux que ça, mais en tout cas des acteurs qui sont moins connus du grand public, qui sont vraiment, vraiment en train d'émerger, d'exploser.
Ouais. Toujours dans l'IA, c'est Photoshop qui, utilise l'IA depuis pas mal de temps, hein, d'une manière, on va dire, plutôt. L'attente est pas très visible, mais bon, là maintenant, on leur dit allez-y les gars, hein, parce que bon, derrière il y a Midjourney, il y a tous ces trucs là, et donc ils accélèrent là-dessus et ils sortent des choses pas assez bluffantes, non, j'ai l'impression.
Ouais, t'as raison. Bah, moi je trouve qu'en fait ils s'offrent une deuxième jeunesse quasiment là, avec la nouvelle version qui incorpore donc Firefly, qui est un outil d'intelligence artificielle dont les résultats sont absolument bluffants. Je sais pas si vous l'avez testé ou si vous avez vu des résultats. Enfin, c'est incroyable. Donc en fait il y a une technologie à l'intérieur qui s'appelle le remplissage génératif, ils appellent ça. Et donc en gros, c'est, enfin ça va te permettre de faire plein de trucs. Je donne deux ou trois exemples concrets. C'est, je veux supprimer un élément sur une photo, mais vraiment un gros élément, genre une personne ou un bout de paysage vraiment. Et l'IA va combler le trou, va deviner en fait ce qui se trouve derrière la personne et remplir la photo. Ça c'est déjà pas mal.
Alors ça existait. Il y avait pas mal d'applis qui faisaient ça. Hein. Par exemple, tu sais, t'es sur la plage, tu veux te retrouver tout seul, t'enlèves les gens qui sont derrière, ouais, qui jouent au foot.
Google fait ça par exemple avec Google Photos et la gomme magique.
Mais là, on arrive à un niveau, on va dire, de prédiction, parce que c'est de la prédiction finalement. Hein. On enlève quelque chose, qu'est-ce qu'il y aurait à la place de ce quelque chose?
Exactement.
Et on arrive à des trucs qui sont impressionnants.
C'est plus spectaculaire encore, je trouve, qu'avec les systèmes qui existaient déjà. Et puis, tu vas pouvoir t'en servir, par exemple, pour élargir le cadre d'une photo. Alors ça, c'est extraordinaire. Si tu prends une photo, tu fais un cadre un petit peu plus large, et en fait, l'IA va deviner ou
étirer
imaginer
et tirer l'image sans déformer en fait les protagonistes.
Vas-y Omar.
Il y en a plein qui sont amusés à faire ça avec des mèmes très connus sur internet où on connaît donc le mème, enfin voilà, les blagues, la même image qu'on utilise pour réagir à un commentaire sur Twitter typiquement, et ils ont élargi et c'est très drôle en fait les résultats qu'il y a. En plus ça humanise un petit peu les personnages qu'on voit dans ces images surutilisées sur internet. Et j'ai vu aussi des gens s'amuser à faire ça avec des tableaux. C'est impressionnant, mais peut-être un peu moins d'utilité, on va dire, parce que bon, là, il y a toute une question qui entre en jeu, c'est est-ce qu'on travestit l'œuvre est-ce qu'on corrompt l'œuvre d'un artiste ou pas à la base? Ça engendre des questions comme ça, un petit peu annexes, on va dire.
Évidemment.
Avec les pochettes d'albums aussi, t'as vu?
Ouais,
c'est vraiment sympa, où ils prennent genre la pochette de Nirvana, tu sais, avec le bébé qui est dans une piscine, là, et tu l'étires et il se retrouve dans l'océan avec des requins autour de lui. C'est excellent. Enfin, tu peux y passer des heures, tu peux vraiment t'amuser.
Il y a vraiment un côté fun. Alors, pour l'instant, les usages principaux que je vois, c'est plutôt, générer quelque chose dans une image. J'avais vu des exemples où ils mettaient ajoute une tour médiévale et il y avait 3 ou 4 exemples, et même architecturalement c'est hyper crédible et tout. Ça pourrait être là sur cette montagne,
parce que ça se fond dans le décor.
C'est
en
hyper
fait.
Bien fait. Alors il y a des erreurs évidemment, mais le simple concept est vraiment bluffant, et j'imagine qu'il va y avoir plein d'usages. Ça restera un outil créatif. Je pense pas qu'on deviendra d'un coup les plus créatifs de la planète avec ça, mais en tout cas c'est intéressant.
Oui, c'est vrai que pour le Kidam, voilà, mais c'est vrai que pour les vrais créateurs, ça va être génial.
Tous les métiers, alors tu parlais pour l'architecture par exemple, enfin tu peux vraiment t'amuser, où tu dis voilà ma maison, alors qu'est-ce que ça donnerait si j'ajoutais un étage, bam. Et en fait le truc, alors avec le remplissage génératif, c'est il mélange des technologies qu'on a dans Midjourney avec ce qu'on pouvait faire déjà sur Photoshop. C'est-à-dire tu prends une image réelle et en fait tu vas cliquer à un endroit de l'image où tu vas l'entourer. Et tu vas écrire du texte, tu vas dire ici, mets-moi, je sais pas, c'est une photo à la montagne, mets-moi un ours qui est en train de m'attaquer, par exemple, et tu vois l'ours qui est en train de t'attaquer qui apparaît directement sur la photo à partir d'un simple prompt. Donc tu as ce mélange entre image réelle et puis éléments ajoutés, qui à la fois, on parlait de la propagation de fake news, bon là ça va pas aider, on n'a pas attendu Photoshop, mais en tout cas c'est le genre d'outil qui va populariser encore ce genre de truc. Et puis pour les créatifs, c'est une révolution dans le monde de la pub, dans le monde de l'architecture.
En effet.
Imaginez plein d'applications.
Pour terminer, il nous reste 3 minutes. Un mot sur Neuralink, qui est l'une des boîtes satellites d'Elon Musk, qui est assez intéressante, même si elle peut effrayer, puisque rappelons-le, Neuralink, c'est cette volonté de greffer en fait des espèces d'électrodes dans le cerveau pour soigner certaines maladies neurodégénératives, ou peut-être redonner la possibilité à des personnes qui ne marchent pas de remarcher, etc. Neuralink, c'est un projet très ambitieux d'Elon Musk. Il y a une info très intéressante qui est tombée cette semaine, Anthony.
Oui, c'est le fait que Neuralink vient d'obtenir l'autorisation de la FDA, qui est l'autorité américaine de la santé et du médicament, pour les premiers tests sur des êtres humains.
Ouais, c'est
chaud. Qui avait été refusé à Neuralink précédemment. Et donc là, ça y est, Musk avait dit, c'était il y a plus de 6 mois, dans 6 mois, on sera prêt à faire des essais sur les êtres humains. Et là, ils viennent d'en avoir l'autorisation de la part des autorités. Donc, ça va commencer incessamment. On ne sait pas exactement quand. Sachant que dans la tête d'Elon Musk, tout est déjà prêt. Il a déjà expliqué en long, en large, en travers. Donc, on aurait ces implants neuronaux qui font la taille d'une pièce de monnaie, qu'on implanterait donc dans le cerveau, qui permettrait de capter les signaux électriques envoyés par le cerveau et de les interprétées grâce à des algorithmes pour pouvoir piloter n'importe quel objet électronique. Donc ça peut être effectivement un exosquelette pour une personne qui est handicapée pour lui permettre de marcher à nouveau, par exemple, ce qui est incroyable, oui. Extraordinaire.
Commander un PC ou un smartphone, enfin.
Ça peut être commander un PC, un smartphone, écrire un SMS à la vitesse de la pensée, voilà, c'est ça. Et avec l'idée derrière, et c'est là où ça devient vertigineux et un peu flippant à la fois, que pour Elon Musk, ces technologies-là, ce seraient les seules qui nous permettraient à terme d'être compétitifs en tant qu'humain face à l'intelligence artificielle. On pourrait doper sa puissance de calcul, sa capacité cérébrale grâce à ces implants.
On est dans le transhumanisme vraiment comme on l'imagine depuis des années, effectivement, et avec toutes les questions éthiques que ça... Bon, déjà, parce qu'il y a eu des tests sur les singes et il y en a beaucoup qui sont morts, des singes. Genre, il y avait 21 ou 22 singes, il y en a 7 qui ont survécu, enfin, quelque chose comme ça. Donc, maltraitance animale.
Il y a eu pas mal de cochons aussi.
Ouais, des cochons, ouais. Et donc, grosse polémique autour de ça, déjà. Il y a aussi les questions morales. Est-ce que, du coup, parce que là, on parle des maladies qu'on pourrait effectivement pallier à certains handicaps, et ça c'est très intéressant, mais maintenant est-ce que ce serait juste quelqu'un qui a de l'argent, en fait, pourra peut-être juste sauvegarder se payer une chirurgie, sauvegarder ses souvenirs, devenir en quelque sorte immortel. Enfin, on peut commencer à réfléchir à des choses comme ça.
Je suis persuadé que c'est ce que imagine Elon Musk.
Ouais, probablement. Voilà, l'immortalité, en fait, quelque part.
On est au tout début d'un projet sans doute beaucoup plus profond.
Sachant que ça coûtera pas si cher que ça. Il a donné des prix. Enfin, il disait que ce serait autour de quelques milliers d'euros, de dollars. Donc c'est, enfin, ce qui est une somme, hein, mais c'est pas, tu vois, c'est pas non plus. Ce sera pas réservé à des milliardaires, quoi. Ouais. Et il a expliqué aussi comment ça se passerait. Donc il y aurait des cliniques Neuralink avec des robots qui opéreraient, et ce serait complètement autonome, en 15 minutes, tu repartirais avec ta petite puce dans le cerveau, que tu pourrais upgrader ensuite. Alors, je sais pas comment ça se passerait, mais voilà, c'est vrai, une mise à jour logicielle, tu vois. Ouais, c'est ça, en OTA, tu vois. Non, mais c'est vraiment fou, quoi. Enfin, même de le dire, tu vois, ça paraît complètement dingue. Mais bon, après, ouais, encore une fois, t'as complètement raison, hein, sur toutes les questions que ça va poser. Après, ne prêtons pas non plus de mauvaises intentions à Musk, parce que parallèlement à ça, quasiment le même jour que cette annonce-là, tu as eu le CEA en France, qui avec des laboratoires suisses ont fait remarcher un paraplégique grâce précisément à un implant neuronal. Donc c'est le même type de technologie, même si c'est exactement la même chose. Et donc là, tout le monde s'est émerveillé en disant « Ah, c'est absolument formidable !» Et dès qu'on parle de Neuralink, c'est le grand méchant loup. Donc voilà, faut aussi...
on terminera là-dessus, c'est que la puce Neuralink est beaucoup plus invasive, alors que le système du CEA, c'est vraiment à la surface de la boîte crânienne.
Non, mais c'est dans la boîte crânienne quand même. Hein.
Tout à fait. Ouais. C'est dans la boîte crânienne, mais si tu veux, d'après ce que j'ai compris, Neuralink, il y a des électrodes qui rentrent dans le cerveau, alors que là, c'est simplement posé. Ouais. D'après ce que j'ai compris sur CEA. Ouais. En tout cas, parce que dans Tech&Co, j'ai reçu le patron de ce programme du CEA qui expliquait que c'était moins invasif que ce que mettait en place Elon Musk. Mais l'intérêt, l'avantage d'Elon Musk, et lui-même le reconnaît, c'est que en étant plus invasif, ça permet d'avoir beaucoup plus de précision dans les données, en quelque sorte. Donc après, bon, voilà, on verra bien si tout ça évolue. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci beaucoup pour l'accueil.
Merci Omar Belkab, rédacteur en chef adjoint chez Frandroid, et merci à Anthony Morel pour commenter l'actu de cette semaine dans De quoi je me mêle. Trottinette ou pas trottinette, messieurs?
Moi j'ai un vélo.
Mais jamais de la vie.
Jamais de la vie, trottinette.
Mais vraiment, pour les brûler éventuellement, mais pas pour rouler dessus.
Moi de temps en temps j'aime bien, c'est pratique. Je trouve que surtout quand il fait beau en ce moment, c'est cool. Pour faire des petits trajets et tout ça. Mais peut-être êtes-vous dans la position de vous poser la question, est-ce que quel type de trottinette dois-je choisir? Parce que c'est vrai que c'est un peu la jungle, hein, dans ce domaine. On en parle dans un instant avec Lionel Costa qui va vous donner tous les éléments pour bien choisir. De quoi je me mêle, la suite tout de suite.
BFM Business et Tech & Co présentent De quoi je me mêle, François Sorel.
Le retour de quoi je me mêle, et j'accueille avec beaucoup de plaisir Lionel Costa. Salut Lionel.
Salut François.
Responsable du
développement et la communication.
Du développement et communication du labo FNAC. Vous savez que de temps en temps, on aime bien se plonger dans ce labo pour vous aider simplement à choisir. Alors, ça peut être des smartphones, des PC, des télés, etc. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux trottinettes parce que c'est un segment, bien sûr, très intéressant. Vous vous intéressez, Lionel, aux trottinettes depuis pas mal d'années.
Ouais.
Et vous accélérez là-dessus, évidemment pas plus de 25 km/h.
Hein. Ouais, oui, en vitesse.
Parce que effectivement, vous testez maintenant De manière très sérieuse des trottinettes.
Depuis début d'année, depuis avril, on a mis en place un banc de mobilité urbaine. Un banc de mobilité urbaine complètement automatisé. Ce qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les tests dans la presse ou dans les magazines, c'est souvent des expériences d'usage, des tests d'utilisation, mais pas un banc de mobilité complètement autonome. Et on a fait fabriquer ce banc de mobilité selon notre cahier des charges par une société normande, la société Creil, avec qui on a travaillé avec leurs ingénieurs, pour fabriquer un banc de mobilité unique au monde. Ce banc de mobilité nous permet d'évaluer tout ce qu'on estime être de la performance sur la partie trottinette électrique.
D'accord.
Le plus important, c'est que la Fnac vend ces produits-là depuis un certain temps. Nos magasins vendent ces produits-là, mais le labo Fnac n'avait pas donné d'informations sur la performance. Ça met du temps à mettre en place un protocole de test.
Et puis c'est différent d'appareils électroniques traditionnels. Hein, même s'il y a beaucoup de techno, on va en parler tout à l'heure. Et vous avez fait appel à une société qui s'appelle Creil, justement.
C'est ça. La société normande. On a décidé de privilégier le local, c'est-à-dire que c'est une société française, on aurait pu passer par une société asiatique ou un peu plus loin encore, et en fait pour des raisons de on voulait, si jamais il y avait une panne ou si on voulait faire un update, c'était plus pratique d'avoir un interlocuteur local proche de nous.
Très bien. Alors, les trottinettes, il y a pas mal de choses à dire, parce que finalement, il y a plusieurs types de trottinettes, plusieurs prix, bien sûr. Tout à l'heure, tu vas nous donner ton verdict et le top des trottinettes que vous avez testé à la Fnac. Comment choisir une trottinette, Lionel, quels sont les points, on va dire, importants à regarder?
Comme tous les autres produits, l'usage. Déjà, l'usage. Qu'est-ce que je vais faire de ma trottinette? Est-ce que c'est des petits trajets pour aller en bas de la maison, c'est quelques 3-4 kilomètres, ou est-ce que c'est un peu plus? Est-ce que c'est vraiment de l'extra-urbain en région parisienne ou dans les grandes agglomérations? On va faire par jour maximum 15-20 kilomètres. C'est important parce que justement, lié à ce nombre de kilomètres, on va choisir une trottinette qui est plus ou moins autonome. Et ça peut vraiment rendre complexe le fait d'avoir une trottinette qui est très peu autonome si on dépasse vraiment le nombre de kilométrages. Il faudrait toujours être accompagné de son chargeur, ce qui n'est pas pratique. Donc il y a la partie usage en termes d'autonomie de distance. Il y a la partie poids aussi. C'est tout bête. On mesure le poids systématiquement. Tous les produits que nous testons au labo Fnac, nous testons le poids. Mais pour les trottinettes électriques, on s'est rendu compte que la transportabilité, c'était presque un point critique, voire...
Éliminatoire si elle est trop lourde. Parce que c'est vrai que souvent, c'est de la multimodalité, comme on dit.
Oui.
On va faire un petit bout en trottinette. Après, on va peut-être prendre le tramway ou le métro ou le bus. Donc, on va se trimballer avec sa trottinette. Il faut qu'elle soit maniable, peut-être même pliable éventuellement, et légère.
Plus simplement, en plus au-delà de la multimodalité transport, c'est si on habite en appartement à l'étage. On n'a pas forcément tous un ascenseur. Au niveau des poids, ça se balade entre 10 kilos et 35 kilos.
Ah, quand même.
Si je pèse 55 kilos, que je suis pas très musclé, et qu'on me demande de porter une trottinette très puissante, très performante, mais qui pèse 35 kilos,
c'est pas bon.
C'est juste pas possible. Pareil, on s'est rendu compte de la largeur, de l'envergure en fait de la trottinette. Tous les coffres ne sont pas adaptés à toutes les trottinettes. Si j'ai une petite C1 par exemple, un petit format ou une Fiat 500, j'ai certaines trottinettes qui ne rentrent même pas dans le coffre. Donc la partie transportabilité, et donc la partie poids, c'est une partie qui est presque, comme tu l'as dit, éliminatoire. Il faut être très vigilant là-dessus quand on choisit sa trottinette électrique.
Après, chose importante, c'est les performances de la trottinette, à la fois l'autonomie, la puissance, parce que parfois on monte des routes assez escarpées, donc il faut en avoir sous le coude, quoi.
Et l'appareil, c'est compliqué parce que aujourd'hui les fabricants annoncent des watts, des ampères heure au niveau batterie, du volt au niveau de la puissance et de l'intensité et de la tension de la batterie. Ça démontre une certaine puissance, mais ce ne sont que des spécifications. Si le fabricant a mal équilibré la puissance de la batterie avec le poids de la trottinette, on peut se retrouver avec quelque chose qui n'est pas du tout optimisé, et donc on peut pas complètement se fier à ça. Et si on vit dans un endroit où, comme tu disais, escarpé, si on vit dans un terrain complètement plat, on n'a pas non plus les mêmes attentes et les mêmes performances. Donc toute cette partie-là, elle est extrêmement importante. C'est notre ambition au Labo Fnac de justement informer les utilisateurs sur ces performances mesurées réellement.
Oui, ça c'est important. L'autonomie, c'est un souci, ou est-ce que la plupart des trottinettes aujourd'hui ont assez d'autonomie pour notre quotidien.
En fait, ça dépend de ton quotidien. Si t'as besoin d'une trottinette, pas de loisir, mais vraiment
Pour balader, pour promener. Voilà,
t'as pas de contraintes vraiment. Toutes les trottinettes vont aller. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire 10 km sans problème. Mais si jamais tu veux faire un peu plus loin, si tu veux faire un trajet, même aller-retour, ça peut vite monter à 30 km parce que ça va à 25 km/h, ça peut aller assez vite. L'autonomie peut être un problème. Et qui dit autonomie dit batterie. Qui dit batterie dit poids. Donc il y a un équilibre à avoir. Pas la peine d'avoir une batterie extrêmement lourde et une autonomie énorme si on sait que de base on va pas faire beaucoup.
On va faire des petits trajets.
Exactement.
Après il y a le temps de recharge des batteries aussi qui n'est pas le même, j'imagine.
Ouais, le temps de charge, ça c'était une vraie surprise. On s'y attendait pas du tout. Alors nous testons toujours les trottinettes avec les chargeurs inclus, intégrés. Certaines trottinettes d'ailleurs fournissent deux chargeurs, donc ils peuvent doubler leur temps de charge. Mais nous testons avec tel que le produit est vendu. On a un spectre de temps de charge qui va de 2h40 à 10h25.
Ah ouais.
2h40 pour charger à 100%.
De 0 à 100, hein, c'est ça ?
De 0 à 100, systématiquement. C'est vraiment batterie full. Donc 10h25 pour charger complètement une batterie.
C'est énorme.
Bon, on peut dire que c'est toute une nuit, voire plus, mais là aussi, il faut être vigilant. Et ça, on l'annonce aussi dans nos tests.
Ok. Oui, c'est un peu comme les téléphones, hein. Il y a des téléphones qui se rechargent beaucoup plus vite que d'autres.
Ouais, mais 10 heures, faut voir le téléphone.
C'est vrai. Il y a de la tech dans ces trottinettes aujourd'hui. Elles sont connectées. Il y a du GPS, des choses comme ça.
Alors, GPS, on n'en a pas eu, mais ça devrait arriver. La partie technologique, c'est principalement sur tout ce qui est sécurisation et tout ce qui est affichage. Sécurisation, pourquoi ? Parce que les antivols, on sait que c'est compliqué. Certaines trottinettes ont un antivol directement lié à l'application. C'est-à-dire que si je n'ai pas déverrouillé dans mon application, ma trottinette ne démarrera pas. J'ai aussi la partie vitesse, évidemment, qui sont complètement... On peut avoir un affichage, évidemment, mais on peut l'avoir aussi sur une application pour voir ma vitesse moyenne, mon nombre de kilomètres et l'autonomie restante. Donc, c'est truffé de tech et de capteurs. Et c'est au-delà de la partie trottinette électrique, bon, il y a de l'électronique, mais c'est aussi de l'astuce, même sur les freins régénératifs. C'est-à-dire qu'on va pouvoir récupérer de l'énergie en freinant. On va se retrouver avec un moteur qui va pas aller. Il va vraiment récupérer l'énergie.
Tu attaques une petite descente, ça te recharge un petit peu la batterie.
Exactement. Donc, c'est toutes ces parties-là qui font des différences grandes entre les produits qui existaient il y a 5-6 ans et les produits d'aujourd'hui.
Lionel, vous en avez testé combien de trottinettes en tout ?
Aujourd'hui, on en a testé une trentaine. Une trentaine pour le moment. Sur à peu près, en référencement dans nos magasins, on a à peu près une cinquantaine. On commence tout juste. On veut vraiment axer nos tests sur les produits les plus vendus, les plus visibles en magasin. Mais on espère vraiment tester 100%. Il y a des produits que nous ne vendons pas aujourd'hui. Ce sont ce qu'on appelle des trottinettes de cross, en fait, celles qui sont vraiment à usage de circuit. Et je reviens sur ce que tu disais au début, sur la partie vitesse maximale. Nous testons les trottinettes électriques bridées. On ne les débride pas. On les laisse tel que la réglementation dans l'espace public l'exige.
Et c'est 25 km/h.
C'est 25 km/h. C'est peut-être un peu frustrant pour certaines personnes qui voudraient y aller plus. Ouais. Mais on préfère se limiter à ça. Parce que lorsqu'on débride une trottinette, alors on met la responsabilité du conducteur là-dessus et du terrain.
Alors, le moment tant attendu est arrivé. Quelles sont les meilleures trottinettes que vous avez pu tester au Labo Fnac, Lionel ?
La meilleure trottinette testée aujourd'hui, c'est la Ocean Drive X9 Plus Pro, qui est à environ à 700 €. C'est celle qui a obtenu les meilleures notes sur les axes. On n'a pas parlé de ce qu'on mesure sur une trottinette électrique. Il y a évidemment la partie autonomie, il y a la vitesse maximale mesurée, parce que certaines n'atteignent pas 25, c'est en dessous. On a la partie puissance. La partie puissance, on a un circuit, évidemment, en bande mesure, qui simule des montées de 3, 6, 9 degrés. Puis des descentes de 9, 6, 3 degrés. Et c'est des circuits infinis comme ça. Donc la Ocean Drive obtient la meilleure note avec 5 étoiles de toute façon là-dessus. On a une autre trottinette qui est assez intéressante, ne serait-ce que par sa marque, c'est la Lamborghini. On a testé une Lamborghini, voilà. Une Lamborghini Alext, qui est environ à 1 300 €, qui elle aussi, c'est la top 2 avec 5 étoiles.
Un excellent Lamborghini, produit. Tiens.
Voilà.
C'est fou ça.
Au Labo Fnac, on teste les Lamborghini, on peut le dire maintenant. Voilà.
1 300 €, donc elle est deux fois plus chère que l'Ocean Drive. Hein. Et ça vaut le coup ou pas ? Enfin, Qu'est-ce qui fait que l'une coûte 700 et l'autre 1300?
Je fais pas le comparo, hein, parce que sur les deux, il y a beaucoup de spécifications différentes. On peut avoir des, on a par exemple dans l'une, on va avoir des pneus increvables, d'autres on va avoir des chambres à air gonflées. On va avoir toute la partie applicative qui va être plus riche sur une marque plutôt qu'une autre. Mm-hmm. Là, je le fais pas là-dessus parce que on ne fait pas cette notation sur ces spécifications. Mais évidemment, les qualités des matières, des matériaux, les qualités d'affichage font que ça peut générer du prix en plus. Bien voilà, sûr. Je ne juge pas là-dessus.
Bon, alors ça, c'est les produits top. L'Ocean ouais. Drive, tu disais X9 Plus Pro, la Lamborghini Alext. Et puis après, il y a dans ce classement les 5 étoiles assez légères, à ouais. moins de 20 kilos. Parce que on le disait oui. tout à l'heure, c'est un paramètre important.
Extrêmement important, et je dirais vraiment, c'est quelque chose. Il faut être extrêmement vigilant lorsqu'on veut acheter une trottinette électrique, d'être sûr que le poids va être suffisamment léger pour le porter soi-même. Les 5 étoiles à moins de 20 kilos que nous avons mesurées comme étant les meilleures, c'est la Pure électrique Pure R3 Pro Plus qui pèse 16,5 kilos. 16,5 kilos, là où on va avoir du 30 kilos pour des trottinettes tout terrain. Et on a la seconde, pareil dans le top 2, la Xiaomi Mi Scooter 4 Pro qui est à 17 kilos. Donc 16 kilos, 17 kilos, on est quand même quelque chose de assez.
C'est transportable, on va dire.
Ouais, c'est transportable, oui. C'est pas un sac à main, mais c'est transportable. D'accord. On a juste une petite remarque. La plus légère que nous ayons testée, qui est à 3 étoiles quand même, hein, ça ne veut pas dire que quand c'est léger, on n'a pas beaucoup de performance. Non. La plus légère que nous avons testée, c'est la WeSpeed F820, qui est à environ à 300 euros et qui pèse 12 kilos. 12 kilos, voilà, pour une 3 étoiles, c'est quelque chose qui est plutôt pratique, sachant que les trottinettes électriques qu'on retrouve dans la rue, qui sont en libre-service, sont plus proches des 30 kilos que des 12 kilos, hein, pour voir à peu près le gabarit.
Et là, on fait l'impasse sur quoi quand elle est légère? Il y a moins d'autonomie, moins de robustesse.
Oui, il y a de tout ça, mais je peux pas le mesurer, je peux pas le dire. D'accord. Mais c'est vrai que quand on a des matériaux plus légers, alors soit ils sont très précieux parce que c'est du carbone hyper léger, mais c'est pas le cas dans ces produits-là. C'est parce que c'est des matériaux, évidemment, c'est pas aussi lourd que les hauts de gamme.
C'est-à-dire qu'il va pas se péter en deux parce que.
Normalement non, voilà. Mais et je suis sûr que non. Mais c'est vrai qu'on a aussi un score de durabilité dans le groupe Fnac Darty qui nous permet de voir les retours SAV de toutes ces trottinettes là. Ouais. Si on les vend, c'est qu'elles ont passé différentes étapes de certification et de réglementation qui font que elles sont fiables. Maintenant, c'est vrai que une trottinette à 12 kilos, on va peut-être pas avoir le même confort avec les mêmes amortisseurs, avec la qualité de freinage que des trottinettes qui sont beaucoup plus mouse.
Donc, voilà. On pourrait imaginer qu'elle est idéale pour les petits trajets.
Exactement. Et peut-être quelqu'un de pas trop lourd aussi.
C'est
voilà.
Ça. Tiens, maintenant, parce qu'il existe des trottinettes, c'est des chars d'assaut. Hein. Ouais. Enfin, chars d'assaut, vous exagérez un peu, mais vraiment tout terrain, comme ouais. on dit. Et vous avez testé aussi ce segment-là.
Oui, complètement. La Mini Motors Dualtron Eagle 2.2, donc c'est la 60 volts 18.2 ampères, qui a obtenu 5 étoiles, hein, mais qui est à 1790 euros.
Okay.
C'est quand même un petit peu en dessous de 2000 euros. Elle est à 29 kilos. Deux roues motrices, idéales pour les terrains, justement, un peu rustiques.
Là, c'est vraiment de la trottinette de compétition, on va dire. Hein.
Oui, et il y en a des. Ça peut aller jusqu'à 7000 euros. Hein.
Il
y a des trottinettes à 7000 euros.
Vous avez testé des...
Non. Ah, non, d'accord. On ne les vend pas. Mais ouais. Il existe sur le marché.
Il existe des trottinettes
qui sont
euros.
Très très haut de gamme à 7000 euros. Mais déjà, moins de 2000 euros pour celle-là, pour l'avoir conduit, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. On se sent ouais. vraiment dans une stabilité parfaite de conduite.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, c'est que finalement, à partir de 300 euros, je peux avoir un produit correct.
Oui.
C'est peut-être oui. ça qu'il faut retenir, finalement. Une trottinette correcte. En tous les cas, que vous estimez rentrer dans les clous, oui. bah c'est 300 euros.
Exactement, 300 euros, on a quelque chose de léger, de pas cher, de pratique, d'utilisable, et toutes ont à chaque fois un système d'application autour, dans son écosystème qui la rend vraiment pratique à utiliser.
Eh bien voilà, si vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site du Labo Fnac hein, avec les détails de tout ce banc d'essai de ces tests de trottinettes. Merci beaucoup Lionel.
Merci François.
Lionel Costa, donc responsable du développement de ce Labo Fnac. Ce de quoi je me mêle est terminé. Encore une fois, merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite bien évidemment un excellent week-end. On sera là de retour la semaine prochaine. D'ici là, n'hésitez pas à nous écouter ou nous regarder en replay et en podcast. À très vite.
De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.